Ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Tu es digne, ô notre Sauveur, notre Seigneur, de recevoir toute la reconnaissance de nos cœurs. Toutes nos vies, Seigneur, toute notre vie pour la gloire de ton nom. Veuille bénir ces moments, Seigneur Jésus. Que ta parole soit vivante, Seigneur Jésus. Je veux être assis avec mes frères et sœurs et écouter moi-même pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, mon Dieu. Que de patience tu as eu envers moi, que de patience tu as encore envers moi. Je te dis merci pour ta bonté. Veuille bénir nos cœurs et nos oreilles afin que nous sachions entendre. Veuille conduire et diriger toutes choses. Ô Saint-Esprit, Esprit de gloire et de vérité, veuille conduire et diriger toutes choses, Père Saint, dans le nom de Jésus. Nous te disons, Éternel, ce verset nous le connaissons par cœur, mais savons-nous le conjuguer? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Que tu aies la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle, que nous ayons la vie éternelle, que vous ayez la vie éternelle, qu'ils aient la vie éternelle. Un jour, un docteur de la loi est venu auprès de Jésus. Et a voulu le piéger avec cette simple demande. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et quand je dis cela, je me sens petit. Parce que ça, c'est un amour extrême qui nous est demandé. Un amour profond, un amour vrai envers notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je pourrais m'arrêter là. C'est déjà un programme immense. Mais en réalité, c'est juste un commencement. C'est le désir de notre Sauveur, c'est le désir du Créateur, du Dieu Saint. Parce que lui nous a aimés, lui aussi d'une manière infinie, je parle de Jésus, parce qu'il a été jusqu'à la mort, pour que nous soyons aimés d'une manière infinie, éternelle. Et ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. La Bible nous parle. Et quand elle nous parle à nous-mêmes. Elle parle à notre cœur. Elle n'est pas là pour nous montrer les erreurs du voisin ou de nos frères et sœurs. Mais elle est là pour nous parler à nous-mêmes et à faire attention à nous-mêmes. Que nous soyons jeunes ou vieux, quel que soit notre temps de conversion, je peux me poser cette question. Où en suis-je? Où en sommes-nous, nous l'Église, le corps de Christ, la bien-aimée du Seigneur, nous qui désirons être enlevés et participer aux noces de l'agneau? Où en sommes-nous? Où en suis-je moi-même? Dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 2, il nous est parlé d'une Église, c'est l'Église d'Éphèse. Il est écrit: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. C'est une belle église, ça. Je trouve qu'elle nous ressemble beaucoup. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, ça porte à réflexion. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Savez-vous ce qu'est le chandelier ? Le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises dans notre pays et dans le monde où il n'y a plus le Saint-Esprit. C'est devenu une religion sans vie. Ce qui donne la vie à l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est de se mettre à la lumière du chandelier en lisant la parole pour qu'elle se révèle à nous, pour qu'elle nous nourrisse, pour qu'elle nous change. Nous avons un Dieu merveilleux qui ne se contente pas de nous sauver pour nous mettre en liberté. Mais ce qu'il désire pour nous, c'est que nous vivions en communion avec lui. Et c'est pas en communion de réunion, c'est en communion permanente. Je sais pas si je voulais déjà raconter, c'est le témoignage d'un jeune homme, d'un fils d'un chrétien à Mulhouse. Le Seigneur s'est révélé à lui devant un tour. Il était en train de travailler sur un tour chez Peugeot. Le tour, c'est une machine très dangereuse. Et le Seigneur s'est révélé là, à lui. Il n'a pas eu d'accident ni quoi que ce soit. Je vous dis, le dimanche suivant, il a galopé à l'église. Il n'y a pas d'endroit où le Seigneur ne puisse pas nous toucher. Je me souviens encore d'un frère, c'était le pasteur de l'église, qui parlait à sa belle-sœur dans la cuisine. Il parlait simplement, je veux dire, rien de tout. Et tout d'un coup, elle a été convaincue de péché. Elle s'est mise à pleurer, elle est tombée à genoux, lui-même se demandait ce qui se passait. Pourtant, il était pasteur. Il veut être notre Seigneur de tous les moments, de tous les instants. Comment pourrions-nous l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées si nous ne l'aimons pas constamment? C'est une mise en garde sévère et pour une bonne raison. Cette raison, elle est vitale. Nous voulons évangéliser, avoir un certain succès. Mais pour cela, il faut porter la parole. Nous sommes tous des vases de terre. Mais ce que veut mettre le Seigneur dans nos cœurs, c'est précieux. Il ne veut pas le mélanger avec autre chose. On ne peut pas le mélanger avec le monde. Il faut vraiment que nous nous mettions à part. Il a parlé du premier amour, mais c'est vrai que quand quelqu'un se convertit, au moment où il naît de nouveau, tout lui semble tellement beau qu'il veut le partager avec tout le monde. Et les autres ne comprennent pas, mais lui veut partager avec tout le monde. Le premier amour. Le premier amour de l'Église, il s'est passé le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et sur les disciples, 120 ils étaient. Et là, ils sont sortis, ils ont annoncé l'Évangile. Et tout le monde entendait, tout le monde était touché. On en a parlé encore vendredi, 3000 ce jour-là. Donc s'il y avait 3000, notre Église serait un peu juste. Mais enfin, c'est pas l'important. Il y a d'autres Églises qui fonctionne sans salle, sans bâtiment. Je pense entre autres actuellement à Montauban. Et ils le vivent très bien. nouveau converti, vit lui aussi cet amour extrême, l'amour de la croix. Il découvre l'amour de son Sauveur, l'amour de son Seigneur. Ses souffrances. Mais savez-vous quelle est la plus grande souffrance que Jésus ait portée? Ce sont nos péchés. L'homme pur et saint qu'il était s'est chargé de notre iniquité. Ne l'oublions jamais. C'était un lourd fardeau, un très lourd fardeau. Il a fallu qu'un ange vienne pour l'encourager. Je ne veux décourager personne. Je voudrais vous rappeler Pierre. Pierre croyait aimer Jésus. Il était son maître, son Seigneur, le Fils de Dieu. Mais à Gethsémané, au pressoir, après un coup d'épée, il l'a abandonné, il a fui. Et pire encore, il l'a renié avec imprécation et en jurant. Je ne le connais pas. Après avoir vécu 3 ans avec lui. Là, c'est sa chair qui a parlé. Il a croisé le regard de Jésus et il a pleuré amèrement sur toute son incapacité. Plus tard, Jésus l'a interpellé. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Comme le demande entre autres le premier commandement. Le plus grand, pardon. Premier. Pierre a répondu, gêné. Tu sais que j'ai une très grande affection pour toi. En réalité, il n'a pas pu employer le même mot que lui. Cet amour extrême, ça le dépassait complètement. Et nous? Combien de fois nous a-t-il posé la question de la même manière devant nos défaillances, nos conceptions humaines, nos résolutions incomplètes, nos manquements, devant certaines de nos insuffisances? Combien de fois avons-nous senti le même vide que Pierre? Et pourtant, Jésus lui a dit, paix mes brebis. Autrement dit, continue à avancer. Continue dans le travail que j'ai mis devant toi. Continue dans l'évangélisation. Continue dans la prière. Continue dans l'intersection, dans l'intercession. Continue, car je suis avec toi. Cet amour extrême va, jour après jour, grandir en toi. Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits ou des femmes, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Les évangiles nous exposent, nous parlent de cette œuvre parfaite de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui nous a rattachés à lui et dont nous devons propager la parole. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni aux Maghrébins, ni à tout étranger, quelle que soit sa race. De la même manière, moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Peut-être certains vont penser, faut pas exagérer. D'autres, trop c'est trop. Ou alors, c'est du fanatisme. Pour le monde peut-être. C'est ce que pense ma chère quand elle ne veut pas obéir. Heureusement, une petite tape du Seigneur, ça me remet la pendule à l'heure. Et je sais qu'il faut aller dans cette direction. Oui, bien ça, c'est juste un commencement. Je pose des jalons pour construire. Je vérifie les fondations. Je regarde où j'en suis dans le temps où je suis, dans le temps où je vis. Où Jésus a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Et là, il parle à l'Église. Il ne parle pas à ceux qui ne le connaissent pas, mais il nous parle à nous, il me parle à moi. Pardon, lui ai-je tout donné? Ai-je tout mis à ses pieds? Ma vie. On dit que Joseph est un type de Christ. Voilà un exemple de vie que nous pouvons lire dans la Genèse, au chapitre 47. On fait sortir Joseph de prison afin qu'il révèle à Pharaon l'explication de son rêve. C'est l'histoire, c'est le rêve des 7 vaches grasses, des 7 vaches maigres qui mangent les vaches grasses, des 7 épis gras et des 7 épis maigres qui mangent les épis gras. C'est 7 ans de famine suivis, pardon, c'est 7 ans d'abondance suivis de 7 ans de famine. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps de famine, les Égyptiens vont d'abord dépenser tout leur argent. Ça ne va pas suffire. Ensuite, ils vont vendre leurs animaux. Ça ne va pas suffire. Ensuite, ils vont vendre leurs propriétés, leurs terres. Ça ne va pas suffire. N'ayant plus rien, ils n'ont qu'une solution, se vendre eux-mêmes. Quand j'ai lu la première fois ce texte, moi qui avais des sentiments plutôt socialistes, j'y dis, c'est pas juste. Et une nuit, le Seigneur m'a réveillé pour m'expliquer ce que je suis en train de vous dire. Joseph est un type de Christ. Joseph dit au peuple, je vous ai racheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez quatre cinquièmes pour ensemencer les champs, pour vous nourrir vous-même et ceux qui sont dans vos maisons. Et dire, tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Là, si Joseph est l'image de Christ, Pharaon est l'image du Père. Si le Seigneur ne me l'avait pas montré, je n'aurais pas su moi non plus. C'est l'image du Père. Les Égyptiens n'ont jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là. Les 4/5 pour eux, même nous sur l'avion, on serait contents, les 4/5 de nos revenus. On ne se rend pas compte. Et à partir de ce moment-là, c'est Pharaon qui va les nourrir pendant les temps de famine. Et là, ils n'auront rien à payer. Ils feront partie en tant qu'esclaves de la maison de Pharaon. De la même manière, nous faisons partie nous-mêmes de la maison de Dieu. C'est quand même un privilège incroyable de devenir enfant de Dieu, fils et fille de l'Éternel. Moi qui suis un si petit bonhomme, même s'il y a du poids, devant l'univers, qu'est-ce que je suis? Une particule? Et pourtant, il m'a vu dans ma misère et il est venu me chercher pour me montrer où était la vraie richesse. C'était peut-être, vous direz-vous, une autre époque, mais c'est une image à retenir. Racheté au prix d'un amour extrême, au prix de la croix. De Gethsémané, où tout est accompli, Jésus nous amène et nous donne un héritage glorieux, la famille de Dieu, un salut éternel, issu de l'amour saint et infini. Ô Père, merci, merci. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dans l'état où il était lorsqu'il est né de nouveau. Lorsque le premier amour agissait dans sa vie. Nous vivons un temps particulier. Je fais une parenthèse. Nous vivons un temps particulier où le monde se déchaîne. Et on ne le réalise pas très bien. Dans nos pays, on ne le réalise pas très bien. Et pourtant, que de tentations, que de besoins inutiles remplissent nos maisons. Et je parle pour moi. Que de choses qui nous engagent et nous volent et nous prennent du temps. Vous vous rendez compte, il y a un siècle ou deux, il n'y avait pas tout ça. Les gens vivaient simplement. Il travaillait pour vivre, pas pour un pouvoir d'achat. Pour acheter quoi ? Souvent, les églises et les missions sont dans l'embarras parce qu'ils ne trouvent pas auprès des membres le nécessaire. Nous, mes frères, nous n'avons pas à nous plaindre. L'église, de ce côté-là, va relativement bien. Ça pourrait aller mieux, mais ça va bien. Jésus nous amène, nous donne un héritage glorieux. Savons-nous ce que nous désirons, ce que notre Père désire, pardon. Tout est dans la prière de Jésus. Notre Père, c'est pas un machin à répéter 5-6 fois, hein. Non. Mais c'est en éprouvant toutes les paroles qui sont dites. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le chemin de la sanctification, entre parenthèses, sans lesquels nul ne verra le Seigneur. Découvrir la sainteté de Dieu, c'est en même temps découvrir nos carences. Mais il ne nous accuse pas, il ne nous abat pas pour cela. Au contraire, il veut nous faire dépasser et remporter des victoires là-dessus. Il ne veut pas non plus nous laisser inactifs dans un coin. Mais actif, vous savez, dans la prière, il y a du boulot. Hein. Il y a du travail. Et même moi, je me trouve léger, très léger, très, 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 très léger. Que ton règne vienne. Que ton royaume, ton autorité s'installe dans nos cœurs, dans l'Église. Une autorité vraie, profonde, active. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Notre salut, le salut du plus grand nombre, l'œuvre désirée du Créateur, du Tout-Puissant, du Dieu Saint. Que sa volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Certains pays, où ils n'ont pas à manger, ils peuvent le prendre au premier degré. Mais nous, quel est notre pain quotidien ? Se nourrir de la présence de Dieu ? Se nourrir de sa parole, s'abreuver du Saint-Esprit. Je crois que nous ne réalisons pas souvent ce que peut faire le Seigneur. La paix de Dieu n'est pas une paix, comment je dirais, qui nous laisse tranquille. C'est une paix qui porte du fruit, qui renouvelle nos forces, qui nous donne du zèle. Juste un petit témoignage. J'étais à l'Égoile, dernièrement, pendant la nuit, je me suis réveillé, j'ai médité la parole de Dieu, je me suis recouché, et tout d'un coup, sont venues des pensées dans ma tête sur le travail que j'étais en train de faire. Le travail que j'étais en train de faire, c'était le placard à mon frère. Enfin, le placard, c'était pas un placard encore, hein. C'était peut-être un cache. Et quand je me suis levé, j'ai dit, Daniel, tu veux pas qu'on y fasse un placard là-devant? Ah, il m'a dit, j'avais pensé, mais le Seigneur m'avait donné toutes les idées, tout ce qu'il fallait pour le faire, pendant un moment d'intimité avec lui. Le Seigneur peut nous donner des choses incroyables. Nous pensons toujours que ces moments de paix, ces moments avec lui, je me souviens des choses, je ne sais pas si je vous l'ai dit une fois, c'était à Mulhouse. J'allais au travail, fatigué, épuisé, éreinté. Je me suis dit, c'était la nuit en plus, je devais travailler la nuit, j'ai dit, je ne pourrais pas y arriver. Quand je suis arrivé, il y avait un Alsacien et un musulman qui étaient en train de parler. Je suis rentré à la conversation, ça a duré une vingtaine de minutes. Il y avait là une dizaine de personnes, tout le monde s'est arrêté. J'ai commencé à parler jusqu'au moment où c'est que le chef a dit, il y a du travail, il faut aller travailler. Quand je suis sorti de là, pour travailler, j'avais un vélo parce que je devais travailler sur un kilomètre de distance sans arrêt avec le vélo. Mais je vous dis franchement, je plais le vélo. Parce que qu'est-ce qu'il en a vu cette nuit-là? Je veux dire un mot, je pétais la forme. C'est incroyable. Mes 100 kilos, je sentais pas le vélo, par contre, je devais le sentir, lui. Mais moi, je sentais pas. Une force incroyable. Juste un moment où j'ai témoigné. Je m'attendais pas du tout à ça, en arrivant. J'étais fatigué, éreinté, épuisé. Mais là, toc, une porte qui s'ouvre. Vous savez, une porte qui s'ouvre. Je dis, ah, j'y mets la main ou le pied. Et je rentre. Et là, personne ne disait plus rien. Mon chef ne disait plus rien. L'aiguilleur à côté ne disait plus rien. Les équipes de manœuvre ne disaient plus rien. Plus personne ne parlait. Tout le monde écoutait. Personne ne partait. Le Seigneur donne des forces. Son contact donne des forces physiques. Renouvelle même les forces physiques. Nous n'y pensons pas. Et pourtant, c'est tellement important. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes frères et sœurs, ça c'est une obligation. On ne peut pas passer à travers. Nous devons pardonner. Sinon, notre paix en est impactée. Il n'y a rien à faire. Oh, vous pouvez être tranquille. Mais ce n'est pas pour cela que vous aurez une paix, la paix de Dieu dans le cœur. Hein. N'oublions pas, tous, qui que nous soyons, quel que soit notre niveau, ou notre état, nous vivons tous de la patience de Dieu, de son pardon, de sa grâce. La dette que nous avons avec lui, elle dépasse tout ce que nous pouvons penser et réfléchir. Parce que si vous mettez en pensée tout ce que vous avez fait, je vous plains parce que vous n'avez pas fini, hein. Vous allez en trouver, quand vous aurez fini une page, vous pourrez en commencer une deuxième. Quand vous aurez fini le cahier, vous pouvez prendre un deuxième cahier. Vous n'en finirez jamais. Tout ce que nous lui devons, c'est immense. C'est immense. Le pardon est obligatoire. C'est une partie de la paix de Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Garde-nous du mal, car sinon cela entame notre paix. Notre paix est synonyme de puissance, mais en même temps elle est fragile à cause de nos manquements. À cause de notre manque de persévérance. Cette paix incomparable, éternelle. Par toi, Seigneur, nous sommes libres, libres d'aimer, de vivre à ta ressemblance, débarrassés de l'inutile, du surcroît de charge. Jésus a porté notre fardeau, notre péché à la croix. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à l'amour extrême. Pourquoi je dis extrême? Parce que dans l'extrême, ça signifie qu'il y a une fin. Jésus a pratiqué l'amour extrême parce qu'il a été jusqu'à la croix. Après cela, c'est l'amour infini. Et nous sommes invités à l'amour extrême parce que nous sommes aimés de l'amour infini. Nous avons encore un bout de chemin, un bout de route à faire, quel que soit notre âge. Alors, saisissons le chandelier. Laissons-nous former, façonner et guider, imprégner de sa présence. Vous savez, le chandelier, on y versait de l'huile. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par Jésus, par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Sinon, nous serions une religion quelconque, sans puissance et sans force. Moi, je vous dis, je suis converti depuis 33 ans. C'est pas, je n'ai aucun mérite. Hein. Si je suis encore là, c'est parce que le Seigneur est avec moi, parce que, bon, mon épouse, elle sait, quoi, mais. Nous avons un bout de chemin à faire. La semaine prochaine, c'est une semaine de jeûne et prière. Nous allons, je ne me suis pas trompé, à 19h, oui ça, monsieur, oui. À 19h, vous êtes tous invités à lâcher tout ce que vous êtes en train de faire pour venir à la réunion de jeûne et prière. Là, nous commenterons ensemble. Mais ça dure 1h30. Une journée, ça a 24 heures. Mes frères et sœurs, préparez-vous pour la réunion de prière, afin que vous soyez déjà bouillants, pleins de zèle en arrivant, pour que nous puissions former tout de suite un assemblage parfait qui combat. C'est tellement important de vivre avec notre Dieu. Il est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe. C'est lui qui donne la vie. On ne réalise pas, mais que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom, Père, soit glorifié. Mes paroles sont un peu justes, Seigneur. Mais ce que nous désirons et ce que je désire, c'est marcher avec toi et aller de l'avant, Seigneur. Dépasser les barrières, voir les murs d'inimitié tomber, nos incapacités s'effacer et voir la gloire de Dieu paraître dans chacun de mes frères et de mes sœurs et à moi-même, Seigneur. En ta bonté et dans ta grâce, c'est toi la beauté de l'Église. C'est toi la bonté de l'Église. C'est toi la force et la puissance de l'Église. C'est toi notre vie, Seigneur. Dans ta bonté et dans ta grâce, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons vivre de toi. Vivre dans ta dépendance, Père Saint, dans le nom de Jésus. Amen.